D'asseoir, merci beaucoup. Alléluia, béni soit Dieu, par lequel nous sommes toujours amenés dans une parade de triomphe. Amen. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche après Noël, et nous sommes donc dans une grande joie, parce que Jésus est né et nous a donné la vie. Amen. Et par lui, en lui et au travers de lui, nous avons notre être, nous nous mouvons et nous marchons dans l'excellence. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie, avant de participer à la Sainte Communion, qu'on étudie un élément très important des Écritures. Vous êtes là ? Superbe. Alors, on va commencer immédiatement avec le thème qui est « Manifester ses vertus ». Manifester les vertus de Dieu. Prenons 1 Pierre, le chapitre 1 et le chapitre 2 en entier. Oui, on va beaucoup lire, mais vous allez voir. Donc il y a l'apôtre Pierre qui écrit à l'ensemble de l'Église. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion. Donc là, l'apôtre Pierre est en train d'écrire à l'ensemble de l'Église. D'accord ? L'Église universelle, la Sainte Église universelle, une. Ok ? Et après, il précise un peu du pont, de la Galatie, de Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjourne parmi les nations, donc il précise quelques lieux où il y avait des grandes églises. Il dit « élu selon la préconnaissance de Dieu ». Dites « j'ai été élu » selon la préconnaissance de Dieu. Si ce message vient vers vous, c'est parce que Dieu avait prévu de vous amener dans la rédemption. Amen. C'est simple. Continuons. Il dit « en sainteté de l'esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Christ, que la paix et la grâce, que la grâce et la paix vous soient multipliées ». C'est une sacrée salutation quand même. Hein. Donc il met dans la salutation absolument tout qui on est en Jésus-Christ. C'est beau ça. Verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, amen, sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc là, il vient de dire quelque chose. Jésus-Christ nous a régénérés par son immense amour. Vous voyez un peu l'idée ? Par son immense amour. Son incommensurable amour. Et il dit pourquoi il nous a régénérés pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaccessible, conservé dans les cieux pour vous. Verset suivant. Qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Donc votre foi mise à l'œuvre, elle vous garde. Amen. Pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez ? Tout en étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire. Notez qu'il a dit « si », pas « vu que c'est nécessaire ». Donc il dit « s'il arrivait que vous êtes affligé par quelque chose, tant que vous marchez dans la foi, c'est bon ». Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à la louange, à la gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Donc il donne toute cette introduction, qui est assez massive comme vous voyez. Il donne cette introduction en disant « Christ a fait de vous la rédemption, Christ a fait de vous une réussite. Christ vous a aspergé, il vous a appelé, il vous a mis à part, il a un héritage pour vous. » Et en fait, si on peut aller au chapitre 2 directement là, parce qu'il va donner quelques instructions à l'Église, et en fait il construit en fait cette identité aux personnes à qui il s'adresse. Vous comprenez ? Donc il commence en disant « vous êtes ceci, vous êtes cela, tout Christ a fait ça de vous ». Puis après il dit « rejetons donc ». Donc il dit « rejetons donc ». Le « donc » il est donc construit sur ce qu'il a dit auparavant, n'est-ce pas ? Jusque-là, on suit. Hein. Donc, ça a été construit sur une... ce don qui est construit sur le fait que notre identité est ferme en Christ, vous voyez ? Notez quelque chose, il y a les gens qui vont dire « si tu es vraiment chrétien, tu vas rejeter la malice ». Il y a quelque chose de juste là-dedans. Mais comprenez qu'un chrétien peut marcher dans la malice tout en étant vraiment chrétien. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas saisi ce que Dieu avait pour lui. Et là, il dit donc « vous êtes comme ça, vous pouvez donc maintenant rejeter la malice ». Vous voyez ? Rejetons donc malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie et toute médisance. Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel. Il parle de l'enseignement et de grandir dans la vérité, dans l'humilité, dans la prospérité. Amen. Le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par lui à salut. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Pas vous expliquer toute la théologie de ça, mais vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, un saint sacrificature, c'est vrai, une sainte, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Cette pierre, c'est Jésus. Amen. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui baptisaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Je ne vais pas aller dans la théologie de ça, mais j'aimerais qu'on voie ce qu'il dit. Une pierre d'achoppement, on passe au verset 9. Mais vous, donc là il dit, il y a des gens qui ont rejeté Christ. D'accord ? Des gens qui ont rejeté le Seigneur. Si on regarde dans le contexte, il parle bien sûr de l'ensemble des gens qui rejettent Christ. Mais si on regarde très spécifiquement, il parle du peuple d'Israël qui avait rejeté Christ. D'accord ? Donc bien sûr, ça s'applique aujourd'hui aux gens qui entendent l'évangile et qui le rejettent. Mais à la base, il parlait d'un peuple très spécifique. C'était un groupe qui s'appelait les pharisiens à l'époque. Ça n'existe plus. C'était un groupe sectaire juif très spécifique qui avait rejeté Christ. D'accord ? Mais il dit, mais vous, dites-moi, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte. Vous savez que ça devrait enlever toutes les formes de racisme du monde. Hein. Il dit, vous avez été transposés hors de la dimension humaine de tout ça. Vous êtes une race qui a été élue de Dieu pour démontrer ses bontés. Donc dites, je suis une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte et un peuple acquis. Ce genre de personne ne rate pas dans la vie, vous comprenez ? Vous voyez ? Vous devez être conscient de ça. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre, qui écrit ça, doit le dire aux gens qui le sont ? C'est intéressant, ça. Vous vous rendez compte de ça ? Il doit l'expliquer à des personnes. Les gens diraient, mais non, si j'étais choisi de Dieu, je le saurais. Vous voyez ? Dieu m'aurait dit. C'est faux, ça. Si vous regardez dans les Écritures, le Seigneur, il parle à Samuel, à un moment. Le petit Samuel, qu'est-ce qu'il croit, Samuel, quand il entend Dieu ? Que c'est Élie qui lui parle, que c'est le gars qui n'est pas loin. Donc il est dans une pièce, il y a un mec dans l'autre pièce, et Dieu appelle Samuel, et il fait « C'est moi !» Et il court vers le gars, 3 fois de suite. Vous voyez, les gens disent « Si Dieu me parlait, j'aurais entendu. » On ne le voit pas, ça, dans les Écritures. Des fois, Dieu parlait, les gens ne savaient pas que c'était Dieu. De la même manière, nous sommes une race, comme il dit, élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. Et il y a des gens qui ne le savent pas, même s'ils le sont. Vous voyez un peu l'idée ? Par exemple, si on prend Nolan, il est tout petit, il a 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'il est conscient de sa nationalité ? Pourtant, il l'est, non ? Il a déjà reçu son passeport ou pas ? Ok. Donc, Nolan, sans même le savoir, il a le droit d'aller dans... C'est combien la Suisse ? 125 pays sans visa, je crois ? C'est beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays où on peut aller sans visa avec notre passeport. Donc, il a le droit. Pourtant, il n'en est absolument pas conscient. C'est intéressant, ça, qu'on regarde un enfant, parce que la Bible nous compare à des enfants qui grandissent. Vous voyez ? Et donc, il dit, par exemple... On prend un petit comme ça, ou même un enfant comme Victor. J'imagine qu'il n'a pas du tout la conscience qu'il est suisse comparé à quelqu'un qui serait par exemple français. Ou par exemple quelqu'un qui est canadien, vous voyez ? Eh bien, on doit lui apprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, nous à l'école, je passe encore le cas aujourd'hui, on avait des cours de citoyenneté, où on apprenait ce que ça voulait dire d'aller voter, de se présenter. C'était les élections communales, cantonales, et ensuite fédérales. Vous voyez un peu l'idée ? Donc on doit apprendre qui on est. Donc là, l'apôtre, il nous dit, vous êtes une race élue, une sacrificature royale et une nation sainte, un peuple qui a été acquis. Mais pourquoi il nous a fait tout ça ? Regardez bien. Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc Dieu s'attend à ce que vous manifestiez des vertus. Amen. On va regarder quelques vertus, vous êtes d'accord ? Parce que le titre, après tout, c'est « Manifester ses S-E-S, pas C-E-S, pas juste des vertus, les vertus de Dieu. » 1 Jean, chapitre 4, versets 11 et 12. Bien-aimés, si Dieu nous aime ainsi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Donc la première chose, c'est manifester l'amour. D'accord ? Manifester l'amour. Vous savez, il y a une différence entre l'amour et l'échange de bons procédés d'amitié. L'amour, c'est gratuit. On n'attend pas de retour avec l'amour. Vous voyez ? Si vous dites « j'aime cette personne parce qu'elle m'aime », alors il y a une marque d'affection, on est d'accord, mais ce n'est pas de l'amour gratuit. Christ, il est mort pour l'ensemble de l'humanité, non ? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, pas besoin de le mettre, juste le dire comme ça, 1 Jean chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit qu'il est mort, qu'il est la propitiation pour nos péchés, non seulement ceux, les nôtres, mais aussi ceux du monde dans son ensemble, ok ? Donc ça veut dire que Jésus a donné sa vie pour des gens qu'il savait allaient le rejeter. Ça, c'est de l'amour. Vous voyez l'idée ? C'est de l'amour gratuit. Prenons Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Vous savez, il y a des gens qui disent « aime ton prochain comme toi-même ». Vous avez déjà entendu ça? C'est un vieux commandement, ça. Vous savez pourquoi? Jésus, il n'est pas bête. Et les gens qui ne s'aiment pas? Il y a des gens qui ne s'aiment pas, vous savez. Ça existe. Après, c'est rarement très profond parce qu'ils disent qu'ils ne s'aiment pas, mais au final, ils se donnent à manger tous les jours. Vous voyez? Ils font leur vie comme ça. C'est juste qu'ils n'aiment pas certains aspects d'eux. Vous voyez la nuance entre ne pas s'aimer complètement et juste avoir un souci avec quelque chose qu'on n'aime pas chez soi, c'est autre chose. Mais là, il dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, c'est-à-dire gratuitement, sans rien attendre. Vous voyez la nuance? Le switch qu'il y a eu, c'est plus « j'aime Dylan parce que je m'aime moi-même », c'est « j'aime Dylan parce que Dieu aime Dylan ». N'est-ce pas? « J'aime Stella parce que Dieu aime Stella ». Pour ceux qui me connaissent assez hâtiment, vous savez que je ne prends jamais d'offense. J'ai horreur de l'offense. Le fait de prendre offense, c'est donner une porte ouverte au diable. Toujours. Toujours. Il n'y a jamais une fois où l'offense est justifiée. Il y a une différence entre être offensé et se protéger. Hein, on est d'accord, d'accord? Si quelqu'un vous a fait du mal profond, il faut se protéger de cette personne. Par contre, de laisser l'action de cette personne venir détruire votre perception des gens, par exemple, ou de venir détruire l'amour propre que vous êtes censé vous porter. Vous savez qu'on est censé s'aimer, hein? Les gens disent non, c'est autant que ça. Non, il y a une différence entre s'aimer parce que Christ nous aime, vous voyez, et de s'aimer parce qu'on pense qu'on est merveilleux. Il y a une légère différence, ok? On doit s'aimer parce que Christ a dit qu'on était digne d'amour. D'accord? Verset suivant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Vous voyez? Donc, on doit manifester quoi? L'amour, une des premières vertus. Ce n'est pas une liste exhaustive, les vertus. Amour. Deuxième, discipline. Proverbe 12, verset 1. C'est beau, hein? Dites, je manifeste l'amour à l'ensemble de mon monde. Les gens voient mon amour gratuit. C'est beau, hein? Qui aime l'instruction aime la connaissance, et qui hait la répréhension est stupide. C'est marrant, il est un petit peu dur des fois dans les proverbes, l'auteur des proverbes. Mais il dit quelque chose de vrai. Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Vous savez qu'il y a des gens, malheureusement, qui se délissent, si j'ose dire, dans le manque de connaissances. Et même, une fois, j'avais vu, quand j'habitais en Amérique, il y avait un autocollant. Les Américains, ils aiment trop mettre des autocollants sur leur voiture. Ils mettent plein de trucs. Et c'était un autocollant, c'était marqué « L'ignorance est bonté. Ignorance is bliss », en anglais. L'ignorance est bonté, beauté, je ne sais pas comment le tourner, mais est paix ou comme ça, c'est faux. Ce que vous ne connaissez pas peut vous tuer. Même si c'est par pure méconnaissance. Laissez-moi vous donner un exemple. S'il y avait un travaux, imaginez qu'on a fait des travaux ici, imaginons que vous veniez comme ça pendant les travaux, et il y a une ligne électrique ouverte, et vous marchez dessus. Est-ce que c'est la compagnie des services industriels lausannois qui vous déteste? Ou c'est juste votre manque de connaissance qui fait que vous avez marché là où il ne fallait pas? Manque de connaissance, on est d'accord? Donc, il faut comprendre une chose. Le manque de connaissances peut détruire certaines choses. On doit aimer la connaissance, et notamment la connaissance de Dieu. OK? Continuons. Si on peut prendre Proverbe 15, 32. Donc, quand je dis Proverbe 15, 32, ça veut dire Proverbe, le livre des Proverbes, chapitre 15. Et dans le chapitre, c'est le verset 32. Celui qui rejette l'instruction méprise sa vie. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Celui qui rejette l'instruction de Dieu méprise sa vie. Est-ce que vous voulez une vie épanouie et construite et remplie de responsabilité et de beauté? Eh bien, ça implique d'accepter la connaissance et l'instruction. Mais celui qui écoute la répréhension acquiert du sens. Vous savez, j'aimerais vous donner ce témoignage. Je connais les deux personnes personnellement. C'était une femme en Angleterre qui avait deux enfants qui était né autiste, et autiste grave. Vous savez, il y a un spectre, c'est juste. Hein. C'est pas genre, soit on l'est, soit on l'est pas. Ça peut être un petit peu entre deux, c'est juste. Les gens dans le médical, vous me confirmez. Et eux, c'était extrêmement grave, au point qu'ils ne savaient pas parler. Ils étaient comme ça, ils regardaient le vide tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne pouvait pas les toucher, on ne pouvait pas leur parler. Ils n'arrivaient pas à exprimer un besoin naturel. Donc, ils allaient dans le frigo, ils mettaient tout par terre, puis ils prenaient le premier truc. Et vous comprenez, il y a une différence entre la compassion et l'amour. Il y a une grosse différence entre les deux. Et en plus, il y a une différence entre la pitié, la compassion et l'amour. C'est trois choses différentes. La pitié, c'est rentrer dans l'émotionnel de la personne pour la réconforter par l'émotion. Alors, ça peut aider dans des trucs très rapides, quand c'est vraiment une douleur instantanée, mais ça ne résolve pas le problème. Voyez ? La compassion va chercher à résoudre le problème, mais la connaissance va amener une résolution à tous les cas. Vous voyez un peu l'idée ? Il y a des degrés. Donc, la compassion sans la connaissance va être juste dans l'intention, mais elle va manquer de la méthode. Vous voyez un peu l'idée ? Vous voyez la différence entre les trois ? Ok. Et donc, cette femme, quelqu'un avait beaucoup de compassion envers elle, lui a dit, mais tu sais, tu dois accepter tes enfants comme ça. Cet autisme, c'est eux. Vous voyez ce qu'il lui a dit ? C'est eux, c'est vraiment eux. Et elle, elle l'a accepté au début, jusqu'à temps que quelqu'un lui dise, moi, mon fils a été guéri d'autisme. Puis là, elle a eu un switch et puis elle a fait, non, alors non, je refuse ça. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, je ne sais pas si c'est exactement ce verset qui l'a marqué, mais elle a su, la Bible dit que celui qui connaît Dieu augmente son intelligence. Donc elle a pris ses enfants, les deux garçons, et les a mis devant la télé, et c'était une chaîne de télé chrétienne qui balançait encore et encore et encore des enseignements bibliques. Et aujourd'hui, ces deux enfants sont en parfaite santé. Je les ai rencontrés, je les connais, c'est des amis à moi. Parfaite santé au point qu'un est un acteur, je rigole pas, il est acteur dans les productions, c'est quoi, c'est Broadway, le truc là à New York ? Mais c'est le Broadway qui est chrétien. Donc c'est pas acteur dans un film, c'est acteur dans des théâtres, vous voyez ? Et il fait ça à grande échelle aux États-Unis. Et l'autre, le plus petit, c'est un pasteur. Donc il prêche comme ça normalement. Vous voyez ? Donc la connaissance, vous voyez ? Le problème c'est que beaucoup de gens ont des très bonnes intentions. Mais vous connaissez l'expression « la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions », c'est ça qu'elle dit, cette expression ? Alors, elle n'est pas très très juste parce qu'il n'y a pas de route vers l'enfer, d'accord ? Soit on est vers le Seigneur, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre deux, vous voyez ? Mais par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que juste parce qu'on a de bonnes intentions, le manque de connaissances peut venir tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'avais un autre exemple, vous voulez savoir ? C'est un pasteur que j'aime énormément. Il était jeune dans la foi, très jeune. Il avait 19 ans environ, très jeune gars. Tout motivé pour le Seigneur. Il était prêt à tout pour Dieu. Il a dit, si je dois aller prêcher l'évangile, n'importe où, j'y vais aller. Et là, il y a une de ses amies qui venait de mourir. Vous imaginez ? Ses amies venaient de mourir d'un cancer. Et pendant les funérailles, 4 personnes sont devenues chrétiennes. Donc des athées qui sont devenus chrétiens pendant les funérailles de la jeune fille. Et lui, on lui a dit, regarde comment Dieu a utilisé le cancer de cette jeune fille pour amener des gens à Christ. Ce qui est complètement fou, vous voyez. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'a pas besoin de causer la mort de quelqu'un pour tirer quelqu'un vers lui. Vous voyez un peu ? Et donc lui, il était là, oh, que Dieu m'utilise un peu de la même manière, vous voyez. Et là, il y a un gars de nulle part qui lui a dit, Dieu m'a dit. Il a commencé à lui dire des trucs. Dieu m'a dit que tu vas être gravement malade. Et que pendant cette grave maladie, tu vas pouvoir attirer des gens à Christ. Dieu va te rendre malade et il va t'empêcher de lire la Bible pendant 2 ans. Et en fait, il a dit le truc de trop, parce qu'il a dit justement, je vais t'empêcher de lire la Bible 2 ans. Il a fait, bon, Dieu, il n'est pas bête, quoi. Il ne va pas m'empêcher de lire sa parole pendant 2 ans. Et là, il s'est rendu compte que c'est le diable qui était en train de lui parler, au travers de ce pasteur, vous voyez ? Et donc, il a dit, je refuse ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir des doctrines centrales, à part ça. Hein. Je vous le dis comme ça, mais beaucoup de mouvements un peu type évangélique protestant manquent de doctrine centrale. Si aujourd'hui, je vous garantis, vous allez voir un prêtre catholique et vous dites, Dieu a prévu de me rendre malade, immédiatement, il va vous dire, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une doctrine centralisée dans l'Église catholique qui dit « Dieu n'envoie pas la maladie ». Voilà, simple. Vous voyez, c'est bien ça. Alors, je ne dis pas que tout ce que l'Église catholique enseigne est juste, mais je suis en train de dire qu'il y a des trucs vrais dans le fait d'avoir une interprétation centralisée des Écritures. Amen ? Ok, celui qui rejette l'instruction méprise sa vie. Continue encore. 1 Corinthiens, oh, c'est beau ça, chapitre 9 et verset 27. Dites « Je manifeste la discipline ». Pourquoi ? Parce qu'une vie disciplinée dans n'importe quel domaine vous fait avancer. C'est simple. Si vous êtes discipliné, regardez, mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc il dit, si mon corps essaie de faire un truc, je le mortifie. Je dis non, corps. Vous voyez ? Ça, c'est la réponse à tous les gens qui ont des soucis avec, par exemple, la gestion de leur... Vous savez, des gens, par exemple, ils dorment trop. Vous connaissez, on connaît des gens, des fois, qui dorment trop. Ils dorment tous les jours jusqu'à 10 heures. Ils perdent leur travail à cause de ça. Il y a des gens comme ça. Hein. Si vous dites non, je refuse que mon corps soit soumis comme ça au sommeil d'une manière malsaine, et vous dites au nom du Seigneur Jésus, vous pouvez appliquer la loi de Dieu sur votre corps. Okay ? Discipline. Ok, manifester la perfection. Genèse 17, 1. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Genèse, chapitre 17, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Vous notez ça ? Vous savez que vous pouvez être parfait ? On doit manifester la perfection de Dieu. Dites, je manifeste la perfection de Dieu. Matthieu 5, 48, Jésus réenchérit avec ça et dit, vous soyez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Personne n'est parfait. En Jésus-Christ, vous êtes parfait. Et vous grandissez dans cette compréhension de la perfection pour ensuite avancer et vous amener cette perfection dans votre travail. Vous amener cette perfection dans votre famille. Vous amener cette perfection dans votre corps et votre discipline de vie. Vous amener cette perfection dans votre quotidien. Amen. Ok, avançons un peu vite. Psaume 101, verset 2. Parfait. Je veux agir sagement dans une voie parfaite. D'accord ? C'est le désir que Dieu a pour vous. Agir sagement dans une voie parfaite. Continuons encore. Colossiens 1, 28. Lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentons tout homme parfait en Christ. C'est beau ça, hein ? Parfait, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire complet, ne manquant de rien. C'est beau ça, hein ? Et Colossiens 4, 12. Epaphras, qui est des vôtres, Epaphras, c'est un gars, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits. C'est ce que Christ a en tête pour vous. Vous savez que Christ a en vous, a pour vous quelque chose d'aussi merveilleux que ça ? Ok, manifester la perfection, on a dit, manifester la sainteté. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. La Bible nous dit, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » C'est beau, hein ? Donc, on a dit qu'il nous a mis à part pour qu'on manifeste les vertus de celui qui nous a appelé à la justice. Hein. Une de ces vertus, c'est quoi ? La sainteté. Et la Bible nous dit dans Lévitique, chapitre 11 et 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par aucun reptile qui se meut sur la terre. » Là, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, il donne juste derrière une instruction de ne pas manger certains trucs qui se baladaient dans le désert. Parce que c'était dans le désert, il y avait des reptiles qui se baladaient. Et c'est là, ça vous ne mangerez pas. Parce que ce n'est pas ça. Ok, dernier. Manifester la richesse. Dieu nous veut pauvres. Qui c'est qui a déjà entendu ça, que Dieu nous veut pauvres ? C'est faux. Dieu ne vous veut pas pauvres. La Bible dit, vous savez que la Bible dit que la pauvreté est une malédiction ? Alors, c'est pas pour dire. Pardon ? J'ai pas compris, la malédiction du péché ? Oui, exactement, oui. C'est le résultat du péché d'Adam et Ève, exactement. Après, ça ne veut pas dire que toute personne qui n'est pas riche est une personne mauvaise, qui est maudite, d'accord ? Mais c'est ça, des fois, c'est ça un peu le problème, vous voyez ? Il y a des chrétiens, ils sont comme ça, je vais vous dire. Ils se posent comme ça. Ils vont organiser la nuit de carnage spirituel. Je rigole pas, il y a des trucs comme ça. Hein. C'est pas vrai ? Vous avez jamais entendu ce genre de truc ? Ok, parfait. La nuit de carnage spirituel, retour à l'envoyeur. Vous voyez ? C'est pas vrai, ils font pas ça, certains chrétiens ? Ok. Et ils vont se mettre comme ça, ils vont faire « Je suis pauvre, les capaches. » Ils vont commencer par prier. Et là, ils vont commencer à nommer tous les esprits possibles. Esprit de Python. Je rigole pas, j'ai déjà entendu ça. Hein. Je le sors pas de nulle part quand je dis ça. Hein. Esprit de Python qui vient voler mes finances. Vous savez que Dieu a créé le serpent à part ça ? Il n'y a rien de négatif dans la création. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien de négatif dans la création. Le serpent a été créé par Dieu, juste ? Ok. Et la Bible dit « Oui, mais Adam et Ève, le serpent, c'était Satan, d'accord ? Dieu a puni Satan, pas le reptile lui-même, d'accord ? Donc là, ils vont commencer à prier. Les cabaches. Toute cette pauvreté dehors au nom du Seigneur Jésus. Ils font ça. Et ils vont passer la nuit à prier. Hein. Pourtant, la Bible dit que c'est le manque de connaissance qui nous fait manquer ce que Dieu a pour nous, pas le manque de prière. La Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Et donc, du coup, ils vont prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ils vont faire des veillées de prière. Et ils vont, après, j'ai même vu ça. Hein, ils vont dormir par terre, non pas par discipline. Parce que moi, des fois, ça m'arrive de dormir hors de mon lit pour un peu me discipliner s'il faut que je me lève tôt ou comme ça. Vous voyez ? Ça, c'est autre chose. Ils dorment par terre parce qu'ils pensent que s'ils dorment par terre, Dieu va plus facilement répondre à la prière. Ou alors, ils vont faire d'autres trucs encore plus drôles. Ils vont prendre l'avion pour voler avec l'avion au-dessus des autorités spirituelles de la terre, pour pouvoir parler plus facilement à Dieu. Vous pensez que Dieu, il a quel âge ? 4 ans ? Vous pensez que Dieu, il n'est pas dans votre cœur à voir ce qui se passe ? Non, Dieu, il a une pile comme ça, puis il dit, ben, la pile du gars qui a pris l'avion, elle va monter. Donc en fait, il y a l'ensemble de l'univers, et plus on est proche d'un tout petit point de la terre, moins Dieu nous entend. C'est incohérent. Et ils vont faire des prières comme ça. Les gars, je sais pas. Ils vont prier des heures. Je brise la pauvreté, brise avec moi. Puis après, ils vont dire, on brise l'esprit de... J'avais entendu un gars qui disait l'esprit de Radin. J'ai dit, bon, ça dépend ce qu'il veut dire. S'il parle vraiment d'un démon qui s'appelle Radin, je pense qu'il a assez tort, vous voyez. Par contre, s'il dit qu'une personne a l'esprit Radin, ça, c'est autre chose. Et il brise, il casse, il prie. Et rien ne se passe. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a rien qui se passe ? parce que les choses sont dans nos mains beaucoup plus qu'on pense. C'est bien de prier une heure et demie sur un sujet, mais si derrière vous priez une heure et demie sur un sujet, mais vous allez dépenser votre argent d'une manière stupide et irréfléchie, Dieu il peut intervenir ce qu'il veut, il ne va pas vous empêcher d'acheter quelque chose d'inutile. D'accord ? Donc on doit manifester les richesses de Dieu, pas nos richesses à nous. Il n'y a pas d'attache aux choses du monde. D'accord ? C'est rien d'être attaché à des voitures. J'ai regardé que je le connaisse pour ça. Ne soyez pas attaché à des voitures ou à des marques. Quelle marque ? Faites votre propre marque. Vous voyez, c'est marrant. Il y avait une femme pasteur. Une femme pasteur, ça va encore, le fait qu'une pasteur soit femme, qu'une femme soit pasteur, ça c'est juste. Mais elle avait un. Elle vient à la télé pour parler à des gens. Elle était habillée entièrement un truc élevé, 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 élevé. Vous savez que c'est inapproprié ça. On est enfant de Dieu. On va faire de la pub pour des gens qui n'aiment pas Dieu. Vous portez une pub permanente sur vous. Et tout ça pour montrer une pseudo-richesse. Et en plus, vous et moi, on sait très bien, désolé d'être dans le contexte, c'était une pasteur, je crois, du Congo. Et vous savez qu'au Congo, malheureusement, beaucoup de pasteurs soulagent les gens de leur fortune en inventant toutes sortes d'esprits qu'il faut les chasser. Je l'ai vu encore et encore. Vous êtes de Kinshasa, non ? Vous avez déjà vu ça, vous aussi ? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font derrière avec les offrandes des gens ? Ils vont s'acheter des trucs Louis Vuitton. Après, ils disent, regardez comme Dieu m'a béni. Si vous me donnez, Dieu va vous bénir aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne laissez pas ce genre de choses venir voler. Vous avez votre propre marque. Vous décidez ce que vous portez. Vous n'allez pas laisser une marque décider ce que vous portez. Vous vous rendez compte ? Mais vous devez manifester la richesse de Dieu d'une autre manière. Deutéronome 8, 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Je ne vais pas aller dans le contexte pour une question de temps, mais allez étudier le contexte. Il parle d'argent, de cash. Enfin, littéralement, il parlait d'or, d'argent et de bronze. D'accord ? Et il dit, ah, mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette richesse ? C'est ça la question. Pour s'acheter des trucs Louis Vuitton ? Non. Afin de ratifier son alliance, qu'il a juré à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Donc Dieu vous donne des richesses pour manifester l'amour qu'il a pour les êtres humains. Vous comprenez ? Vous voyez un peu l'idée ? Si vous avez des richesses, imaginons, Dieu nous donne des richesses. Imaginons que vous avez 20 000 francs. Est-ce que c'est mieux quoi ? D'acheter des marques stupides à porter devant tout le monde ? Ou imaginons d'acheter de la nourriture en masse et la distribuer gratuitement à des gens que vous ne connaissez pas ? Vous savez, en Suisse aussi, il y a des gens qui ont faim, il ne faut pas croire. Souvent, on voit toujours, ils nous envoient ces trucs avec des petits gamins asiatiques avec le ventre gonflé et tout ça. Je vous garantis qu'en Suisse, il y a des gens qui ont faim. D'accord ? Donc vous amenez comme ça l'évangile en leur donnant à manger. Vous dites « Jésus vous aime gratuitement ». Quel est l'impact que vous allez avoir ? Lequel a le plus d'impact selon vous ? Le deuxième, évidemment, n'est-ce pas ? Regardons encore le verset suivant. Proverbe 10, 22. Regardez ça. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Le terme enrichi, si on le regarde dans le Septante, c'est vraiment amener de l'argent, littéralement. C'est beau, hein ? Dieu ne veut pas pauvre. Regardez Jésus. Est-ce que Jésus. Laissez-moi vous poser la question. C'est une question exprès un petit peu tournée bizarrement. Est-ce que Jésus était pauvre ? Intéressant ça. Est-ce que Jésus était riche ? Alors ça dépend comment on regarde. Jésus avait énormément de finances. Il n'y avait aucun doute sur ça. La Bible montre encore et encore. Par contre, est-ce qu'il se donnait l'apparence d'une personne riche, selon vous ? Non, c'est ça la différence. Il n'avait aucune attache aux choses du monde. Mais il était prêt à sortir l'équivalent de 2 ans de salaire. Je rigole pas, la Bible le dit. Vous savez, des fois, on lit la Bible comme si ce n'est pas arrivé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, c'est une jolie histoire, mais on ne regarde pas le détail. Il est comme ça. Il faut que je prenne quelqu'un pour un exemple. C'est le plus près, désolé. Donc moi, on va dire que je suis Jésus, d'accord ? C'est pas mal comme rôle. Hein. Et lui, c'est mon disciple Philippe. Et vous, vous êtes les 20 000 personnes qui êtes par terre, qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Donc là tu me diras un truc. Je vais te montrer. Donc là, il vient, il fait ces gens ont faim. Et vous savez, c'était l'époque. On ne pouvait pas juste renvoyer les gens en voiture chez eux à 10 minutes en voiture. Hein. Il fait oh, ces gens ont faim. Donnons-leur à manger. Philippe, va acheter à manger. C'est ce qu'il dit. Vous savez ce qu'il répond, Philippe ? Il dit quoi ? Vas-y. Philippe. Va acheter à manger pour tous ces gens-là. Ok. Merci beaucoup, c'est parfait. On applaudit. Donc, il dit, où acheter pour 200 deniers de nourriture, Seigneur Jésus ? Pourquoi ? On lit ça comme ça, mais vous rendez compte que là, Philippe vient de dire, j'ai 200 deniers sur moi, où aller les dépenser, Seigneur ? Et la question, c'était, parce qu'il y a 20 000 personnes à nourrir qui n'ont pas bouffé depuis 3 jours. La Bible est précise, ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Ils suivaient Jésus depuis 3 jours. Et donc lui, il dit, mais les 200 deniers que j'ai sur moi, il n'y a aucun magasin qui va me vendre de la nourriture pour 20 000 personnes. Il n'y a pas de supermarché à l'époque. Et même un supermarché, je ne suis pas sûr qu'il pourrait vendre pour deux. Et on lit ça comme ça. C'est quoi 200 deniers? C'est quel montant si on le traduisait aujourd'hui? C'est un peu dur à dire exactement. Mais ce serait entre 100 et 200 000 dollars. Donc Philippe, l'apôtre de Jésus, était comme ça avec 200 000 dollars sur lui. Prêt à être utilisé pour les gens. Et là, son argument, c'est pas « j'ai pas assez d'argent » ou « j'ai pas ce budget ». Et notez qu'il a juste demandé à Philippe. Et la Bible est claire que Philippe, vous savez que Jésus, il avait un comptable qui était avec lui tout le temps. Hein. La Bible le montre. Hein. Ouais, c'était Judas. Et il volait dedans, en plus. Non, c'est vrai, la Bible dit « et il volait dedans ». Mais Jésus, il s'en foutait. C'était assez drôle. Pourquoi? Parce qu'il savait que, de toute façon, même si on lui vole quelque chose, ça va revenir. Vous voyez? Et donc là, il regarde Philippe. Donc pas le comptable qui a toute la bourse avec lui. Hein. Il regarde juste un des disciples et il dit « va acheter à manger ». Il dit « mais j'ai que 200 deniers sur moi. Je peux, avec 100 000 balles, je n'aurai pas assez pour nourrir 20 000 personnes. D'accord ? Seigneur, ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la réflexion ? Donc Jésus dit, va faire ça. Et lui, ça, son argument, ce n'est pas « j'ai pas d'argent », c'est « où acheter autant ?» Intéressant, hein ? Mais est-ce que Jésus était connu pour avoir des beaux vêtements, des grosses enfin, des voitures, non, mais des gros chameaux, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que Jésus était connu pour ça ? Non ! C'est ça, vous devez être manifesté sa richesse comme ça. Vous devez être tellement prospère que les gens pensent que vous êtes quelqu'un de lambda et vous faites « oh, t'as un problème de loyer, je paye ton loyer. » Et personne ne sait. D'ailleurs, quand vous faites une œuvre de bienfaisance, ne le dites pas à tout le monde. Hein. Aidez la personne et personne ne doit savoir. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça pourrait embarrasser la personne. Imaginez si je paye le loyer d'Ethan et je dis à tout le monde « gloire à Dieu, j'ai payé le loyer d'Ethan parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer son loyer. » C'est très embarrassant, imaginez. Donc c'est pour ça que Dieu a dit « quand vous faites une œuvre de charité, ne le dites à personne. » Par contre, si vous faites une œuvre pour Dieu, là, vous pouvez le dire. Par exemple, si vous faites « j'ai donné pour la rhapsodie, gloire à Dieu qui m'a aidé à donner. » Ça, c'est autre chose. Mais n'embarrassez pas une personne spécifique en disant « je lui suis venu en secours parce qu'elle ne pouvait pas s'acheter sa voiture. » Vous voyez un peu l'idée ? Gloire à Dieu ! Ouh, c'est beau, hein ? C'est des bonnes choses, vous ne trouvez pas ? Donc, vous manifestez ses vertus. Dites « je manifeste son amour. » « Je manifeste sa discipline. » Je manifeste sa perfection, sa sainteté et sa richesse. Alléluia, c'est beau, hein ? Et vous manifestez ces choses. Mais comment est-ce que vous pouvez les manifester ? Parce que vous savez et vous grandissez dans leur connaissance. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez ces choses-là et vous les manifestez ensuite. Et vous vivez dans cette prospérité, cette gloire et cet avancement. Pour toujours réussir dans tous les domaines. C'est ce que Dieu vous a appelé, de manifester ces choses-là. Et le plus beau, c'est que toutes ces choses-là, il vous les a données. Elles sont à l'intérieur de votre esprit quand vous croyez. Amen. La Bible dit que celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 17. Amen. Et la Bible dit que ceux qui ont entendu cette parole de vérité, ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1 et verset 13 et Éphésiens chapitre 4 et verset 30. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de rédemption si vous croyez en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que votre esprit est parfait, vous ne manquez de rien. Vous savez que vous ne manquez de rien, la Bible dit, psaume chapitre 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Ah mais je manque un peu de trucs quand même, je manque de finances. Ah bon ? Je manque d'amour, c'est faux. Vous savez, ils ont fait une étude, vous connaissez le principe du placebo ? Oui ? Alors arrêtons d'expliquer toutes les guérisons divines par du placebo. Le placebo ne peut pas guérir un cancer, les gens, d'accord ? Le placebo, ça touche juste notre perception des symptômes. Mais vous savez qu'il y a un verset. Ouh, je passe trop de temps à lire la Bible, moi. Il y a un effet inverse du placebo qui cause des douleurs chez les gens. Ils ont fait des tests à plus en finir. Le placebo inverse existe. Au lieu de rétablir la personne, ça le rend malade. Donc la personne est sûre d'avoir un problème, alors qu'en réalité, physiquement, il n'y a rien. Et il y a un terme même pour quand c'est très grave, c'est des maladies. J'ai oublié le terme. C'est ça, je crois. Psycho quelque chose. Des maladies comment ? Psychosomatique, je crois que c'est ça. C'est des maladies où la personne a tous les symptômes, mais il n'y a rien. Le corps, le sang, les reins, tout fonctionne comme il faut. Et pourtant, ils ont tous les symptômes. Vous voyez ce que l'intelligence peut faire en bien ou en mal ? Vous pensez ne pas avoir d'amour, alors qu'en réalité, vous avez de l'amour en abondance. Vous ne pensez pas avoir de perfection, en réalité, vous en avez. Et vous dites au nom du Seigneur Jésus, je marche dans cette perfection, j'avance, j'évalue, je grandis dans tous les domaines. Amen ? Gloire à Dieu. On va prendre les versets de la communion, la sainte communion. le moment où Jésus-Christ a offert son corps pour nous. Prenons 1 Corinthiens chapitre